quand on s'investit à Cinéfable, on fait le choix de l'action militante dans la culture. La plupart du temps, on vient d'abord au festival en spectatrice pour la culture, et ensuite on y revient en actrice pour contribuer à l'existence du festival qui permet la diffusion de la culture. Mais ce festival est-il militant ? Il est organisé par des femmes pour des femmes, et plus encore, par des lesbiennes pour des lesbiennes. Sa programmation est constituée de films lesbiens et féministes, uniquement faits par des réalisatrices. Il diffuse des films dont peu bénéficient d'une distribution, qui sont invisibles dans les circuits commerciaux. Il se déroule en non-mixité. C'est un événement lesbien revendiqué. C'est un lieu d'échange et de débat. Et son organisation est entièrement bénévole, non hiérarchique, et repose sur l'autonomie financière. Il propose une pluralité de formes artistiques à une pluralité de lesbiennes et de manières de vivre leur lesbianisme. Et pour tout ça, nous répondons oui. D'autant plus qu'il faut constamment se battre et argumenter pour défendre et maintenir ses choix, notamment le premier d'entre eux, la non-mixité et son corollaire, le choix de s'organiser de factions autonomes entre lesbiennes. C'est le cas pour trouver et garder un espace où installer le festival. Pour celles qui le connaissent, vous savez qu'on a beaucoup bougé de lieu en lieu, mais on a encore un pour cette année. C'est le cas pour obtenir des financements, qu'ils soient publics ou privés. C'est le cas pour rendre l'événement visible dans les médias, en dépit de sa longévité et de son importance. Et c'est aussi le cas pour renverser les préjugés d'une partie des lesbiennes ou femmes homosexuelles et les convaincre de venir se faire leur propre idée sur place. C'est même encore le cas régulièrement à l'intérieur de l'équipe.
Mais parfois, on reproche à Cinéfable de ne pas être suffisamment militant, ou en tout cas pas complètement. Par exemple, lorsque nous ne prenons pas position sur certains sujets, alors même que nous sommes interpellés pour le faire. Alors c'est une discussion que nous avons encore eue en interne en janvier 2013 et qui a renforcé notre point de vue. Nous faisons le choix de la pluralité pour les participantes, spectatrices et organisatrices, comme pour les œuvres présentées et les thèmes abordés. Et cela signifie ne pas prendre une position tranchée en tant que collectif, mais ouvrir le débat aux différents points de vue et avis, donner à voir et à entendre des expressions différentes pour que chacune puisse forger son opinion et puisse l'exprimer. Étant entendu que cette ouverture à l'expression plurielle trouve tout de même sa limite sur le fondement de principes qui pour nous sont intangibles, opposition au sexisme, à la lesbophobie, au racisme, à la violence, aux extrémistes religieuses et politiques.
Mais est-ce un outil efficace ? Nous apporterons ici uniquement le témoignage de notre expérience du festival. L'action militante par la culture permet de toucher des personnes qui ne sont pas déjà engagées et qui parfois même se revendiquent comme non militantes. Elles viennent pour voir des films de distraction, par exemple. Le petit film romantique de l'année. Mais elles assistent aussi à des séances documentaires, à des débats. Elles peuvent ainsi être sensibilisées ou simplement informées. Cela peut faire évoluer leurs réflexions, voire les amener au militantisme. D'autres sont déjà sensibilisés, mais ne savent pas comment s'impliquer, n'osent pas aller directement vers les groupes militants. C'est par exemple le cas de plusieurs femmes qui sont maintenant actives dans l'organisation du festival.
Je reconfirme, et d'un point de vue personnel, je pense que c'est très vrai, pour ajouter un petit peu sur ce point-là, que ça donne une ouverture aux femmes qui ne savent pas comment aborder le militantisme, effectivement. Et d'un point de vue personnel, je sais que ça m'a apporté énormément de choses. Et justement, comme c'est un événement culturel, et un lieu où le militantisme peut être présent justement sans être trop marqué pour certaines, ça permet de faire passer des messages de façon plus accessible, voire moins menaçante, à un public qui est non initié. Et un public qui n'a pas les codes et le vécu pour comprendre certaines positions tranchées, c'est qui est le résultat de cheminements antérieurs parfois très longs, ça permet d'aborder le féminisme d'une autre manière, par une autre porte. Et ce qui est passé est évident pour certaines reste à découvrir, pour d'autres. Et les œuvres culturelles, ça donne un médium d'illustration et d'entrée en matière sans avoir forcément à tout revivre ou à tout découvrir dès le début, comme l'ont fait les plus anciennes et celles d'entre nous qui sont dans ce milieu militant depuis longtemps. Et là, on trouve un point de convergence avec la question des archives et de la transmission qui a fait l'objet d'une table ronde cet après-midi. Une œuvre, un événement culturel donne à voir des situations et des interprétations qui permettent d'enrichir sa connaissance, d'y puiser la source de réflexion personnelle, d'évoluer dans son implication personnelle aussi. Ces réflexions, cette évolution peuvent être internalisées, mais aussi partagées et confrontées lors de débats, mais pas seulement. Et c'est là que se distingue un événement culturel militant de tout venant culturel ou du grand bazar de la culture spectacle. Car le festival en lui-même n'est pas seulement un lieu où on vient consommer de la culture. C'est un lieu d'échange, de convivialité. Et au-delà du cadre formel des débats inscrits au programme, il y a des discussions libres qui s'engagent par exemple autour de l'exposition de la cafétéria et tout autour de l'espace qui est créé pour les femmes. Les contacts avec les nombreuses bénévoles qui font le festival et la possibilité donnée à chacune de s'impliquer, ne serait-ce qu'un peu contribuer aussi à l'évolution de toutes. Et c'est une application joyeuse, ludique, et qui motive celles qui se sentent rebutées par la réputation trop sérieuse ou prise de tête d'actions militantes. Donc c'est une porte annexe.
Et au-delà des festivalières, on peut aussi pointer un impact par ricochet auprès de leur entourage, famille, amis, collègues. L'évolution de chacune infuse dans sa sphère propre et contribue ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'évolution générale des mentalités. Pour les réalisatrices et les créatrices, l'événement culturel est le lieu où montrer leurs œuvres, les faire connaître, les confronter au public, pour évoluer dans leur parcours créatif, mais aussi pour convaincre d'autres diffuseurs, atteindre d'autres publics et pouvoir continuer à créer. Par exemple, à travers le festival Quand les lesbiennes se font du cinéma, qui est le grand festival lesbien français, on a pas mal de festivals LGBT mixtes qui sont un peu dans toutes les régions et qui viennent, entre guillemets, faire leur marché pour enrichir un peu la partie lesbienne de leur programmation, parce que souvent, ces équipes sont faites par une majorité de garçons qui ne connaissent pas nos films, qui n'ont pas nos sources. Et ça permet aussi que ces films-là soient vus ailleurs, auprès de femmes qui peut-être après feront le déplacement jusqu'à Cinéfable. Bien sûr, tout ça ne fait que très peu boucher les lignes. Les exclusions, les persécutions, les violences sont partout, innombrables, extrêmes, effroyables. Nos événements culturels contribuent à les rendre visibles, à sensibiliser, à faire prendre conscience, mais à une toute petite échelle. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est aussi un signe lancé à celles qui sont confrontées à ces situations dramatiques. Elles ne sont pas seules, leurs appels sont entendus, portés dans la mesure de nos forces et de nos relais.
Ainsi, il est important de souligner que le festival, comme d'autres exemples d'actions culturelles militantes, constitue un lieu d'appartenance, un point d'ancrage essentiel. C'est un lieu où on se retrouve, un lieu qui nous rend plus fortes, un lieu où on partage, j'aurais presque envie de dire communie, si ce n'est que ce n'était là pour la révérence religieuse. C'est le lieu d'un rendez-vous récurrent qui nous ressource, grâce auquel on se sent moins isolé, plus forte pour retrouver le monde extérieur.
En cela, et même si cela peut paraître peu, Un festival culturel constitue un outil efficace d'action militante et de visibilité lesbienne.
Bon, donc on va passer à la discussion. Alors vous levez la main, je passerai les paroles et je rappelle la conclusion. Cinéfab, c'est un rendez-vous, un lieu d'échange international et un lieu, comme tout lieu non mixte, de désir et de plaisir.
Bonjour à tout le monde. En premier, je voulais merci pour avoir choisi ces thèmes aussi dans le contexte lesbien et non mixité. Moi, je m'appelle Katharina, je suis artiste, animatrice, de plus en plus lesbienne, précaire, migrante, portugaise. Et quand on parle ici sur la culture comme action de visibilité, mon travail après finir mes études, c'était que l'art en tant qu'outil d'intervention sur plein de questions, sur la question de la pauvreté, sur la question de lesbianisme, etc., etc. Je faisais part d'une coopérative culturelle des femmes, fondée pour des femmes, organisée pour des femmes. À la fin du temps que j'ai travaillé là-bas, on s'est vu sans pouvoir continuer en tant que collectif des femmes artistes, soit parce qu'on n'avait pas plus de financement financement d'État, l'État, soit parce qu'on ne voulait pas se vendre au privé, au système privé, à des entreprises. Donc, la plupart des copines, on fait son chemin. La coopérative a fini. Et là, moi, j'ai migré. Il y a une autre copine qui a migré aussi. Il y a une autre qui continue là-bas à faire son travail plutôt toute seule. Moi, tout à l'heure, je parlais avec Anna. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais, je trouvais super l'initiative aussi du festival. En même temps, je t'ai vu dire, on a plein de copines qui sont parties en Italie parce qu'on ne peut pas vivre dans cette précarité, parce qu'on a du mal à vivre avec cette précarité en tant qu'artiste, en tant que féministe, en tant que lesbienne, en tant que femme. D'accord ? Donc, on part, on ne veut pas partir, on veut continuer à militer dans l'espace où on est, d'où on vient, et on ne peut pas. Et là, je veux mettre deux questions. Comment on peut continuer en autonomie en tant que salarié, en tant que féministe, en tant qu'artiste, que veut avoir la valorisation de son travail au dehors de tous ces systèmes capitalistes et patriarcales, pour un côté. Et moi aussi, j'aime bien l'art. J'aime bien consommer aussi l'art. J'aime bien voir l'art. Et l'art aussi, elle est une marchandise de plus en plus. Elle est chère de plus en plus. Et hier, on avait des concerts super ici. Mais si on va dans le programme, les deux seuls espaces qui sont payants sont des espaces d'art. Moi, je m'ai vue dans une contradiction immense, soit parce que je ne veux pas payer 15 euros dans un festival lesbien, en non-mixité, anticapitaliste, etc., etc. En même temps, je ne voulais pas la solidarité clandestine. En même temps, je voulais qu'il y ait des alternatives dans un espace comme ça pour des femmes qui n'ont pas d'argent et qui veulent assister à des espaces comme ça, peuvent y aller sans essayer d'être cachées, d'entrer d'une façon cachée. Donc, j'ai posé aussi, on parle de classe, on parle de classe de femmes, mais on parle aussi de classe sociale, d'accord ? Et bon, je suis un peu énervée parce qu'hier, ça, c'était dur. C'était dur en même temps. Je sais qu'il y a des copines, plein de copines qui ont essayé de trouver des moyens pour que autre copine entre et pour qu'on entre aussi. Mais moi, je veux entendre l'organisation des espaces aussi pense à ça. Parce que quand on met un prix fixe, 15 euros, et on peut pas, et on met pas aussi l'alternative d'avoir d'autres prix pour des personnes qui n'ont pas d'argent, on est en train de trier. Et on est en train de trier les femmes par rapport à sa classe et sa possibilité financière. C'est seulement...
Y a-t-il une organisatrice qui puisse répondre ?
Moi, je ne fais pas partie du CEL, mais je suis assez proche de l'organisation. J'ai un peu suivi toute la préparation et je peux expliquer ce prix. Alors, d'une part, je voudrais dire quand même qu'il y a eu un effort énorme pour rendre l'endroit accessible, les lieux. Il y a eu les prises en charge de l'hébergement pour les intervenantes extérieures pour des montants, enfin, à des niveaux faibles. Il y a eu la traduction. Ensuite, au niveau du village lui-même, il y a la scène ouverte qui est entièrement gratuite. Et depuis le début, depuis la semaine dernière, moi je suis arrivée mercredi dernier, il y a quelque chose presque tous les jours. Une partie des groupes qui ont joué hier soir, sont aussi passés sur la scène ouverte, sur un espace un peu plus restreint. Effectivement, la soirée de concert d'hier soir était payante. Cela dit, 15 euros pour un concert, malheureusement, aujourd'hui en France, c'est très rare. Elles ont maintenu le plus faible qu'elles pouvaient. Le seul problème, c'est qu'il faut payer la salle, il faut payer le lieu, il faut payer le matériel. Et c'est pour ça. Alors après, effectivement, on fait au plus faible. Stratégie. Après, on peut aussi ne pas faire de concert. On peut aussi ne pas faire de concert.
Merci beaucoup. Juste, effectivement, en tant que, j'adhère complètement à ce que tu as dit. Avec une autre camarade qui est ici présente, Karima, donc on a essayé de voir les organisatrices donc du CEL qui ont pris en charge, effectivement, comme tu le rappelles, l'organisation donc entre autres du concert, histoire de trouver des alternatives en termes de paiement, des alternatives de prix solidaire. On a essayé de faire comprendre qu'il y a qu'on est plutôt de classe défavorisée, en tout cas de précaire. Ce qu'on nous a répondu, c'est que ce qui était pris en charge aussi dans les 15 euros, c'était les cachets des artistes. Donc à partir du moment où... Voilà. Simplement... Non, mais c'est très bien. Simplement, je pense qu'il eût été judicieux, effectivement... Peut-être d'avoir soit une plaquette à un moment donné, soit en tout cas des explications en amont sur ce prix-là. Parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire remonter ces critiques de ce prix. Je pense qu'on peut trouver des alternatives. Je pense qu'effectivement, toutes ces prises en charge, on pourrait peut-être les balancer sur d'autres lignes effectivement budgétaires. Parce que le concert, c'est pas le seul, à mon avis, événement qui attirerait les lesbiennes, les femmes, surtout quand on se dit qu'on a envie d'être dans un espace militant, d'accord, et d'expression. Donc je pense qu'il faut rendre effectivement accessibles tous les événements dans des milieux qui luttent effectivement contre l'approche néolibérale, quoi, l'oppression capitaliste.
Alors, effectivement, la question que tu poses est très importante parce que d'un côté, qui organise est sous le chantage d'un prix très haut des salles, des déplacements des artistes, des cachets des artistes qui sont justes parce qu'elles vivent de ça, c'est juste. Hein? Et de l'autre côté, si on est obligé à faire deux prix, on est obligé à expliquer tout ça. Alors, comment on fait, nous, à la porte? Alors nous, par exemple, on a compris que le peu de beaucoup de femmes est mieux du beaucoup de peu de femmes. Je ne sais pas si j'ai expliqué en français ce que je veux dire. C'est juste que si toutes on mettait 3 euros, toutes celles qui on est ici, toutes celles qui sont ici, pour soutenir celles qui ne peuvent pas payer 15 euros, ça serait beaucoup plus d'argent de ce qu'on gagne en faisant l'entrée à 15 euros. Donc, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, voilà, que la culture a besoin des moyens, on a besoin d'argent, mais que cet argent peut reposer sur une communauté intelligente et responsable qui peut mettre chacune son peu et pour recueillir une plus grande quantité d'argent. Voilà.
Merci. Oui. Et il y a aussi l'initiation des slameuses qui, elles, ne font jamais payer les entrées, mais laissent un libre prix, c'est-à-dire chacune met ce qu'elle veut. Alors peut-être que les organisatrices auraient pu dire entrée au bon vouloir, prix de revient 15 euros, celles qui veulent mettre plus, mettent plus, celles qui veulent mettre moins, mettent moins. En tout cas, les slameuses font ça et ça marche bien. Bon, alors peut-être qu'elles en tiendront compte pour l'année prochaine. Hein.
Je voudrais dire aussi que le problème, c'est peut-être de travailler avec l'Europride. Ça fait qu'on travaille. C'est une grosse organisation qui a suffisamment d'argent pour louer un lieu pareil. En général, les lesbiennes n'ont pas beaucoup d'argent. On a beaucoup de précaires. On ne gagne pas forcément beaucoup parce qu'on est des lesbiennes, parce qu'on est des femmes. Travailler avec ces lieux-là, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Du coup, ça coûte plus d'argent qu'autre chose, alors qu'il y a plein de lieux alternatifs qu'on pourrait changer, qu'on pourrait investir, qu'on pourrait créer, et qui nous permettraient du coup de coûter beaucoup moins, de le faire vivre différemment. Quand on travaille avec ces grosses organisations, ça transforme aussi un petit peu qui on est, ça change. Ça fait des concerts à 15 euros, voilà. Ce qui ne sont pas forcément notre philosophie à beaucoup, loin de là. Et ça fait aussi que du coup, à l'entrée du concert, il y avait des vigiles qui fouillaient. Et ça, c'est vraiment... Ça casse complètement l'atmosphère de confiance qu'on a envie de voir, qu'on a envie de sentir dans un lieu lesbien non mixte.
Je voudrais revenir sur un sujet qui a abordé Jacqueline Julien tout à l'heure. Sur, mais elle n'écoute pas, c'est pour ça. J'attends. Coucou. Oui, je voulais revenir sur un sujet que tu avais abordé tout à l'heure concernant la visibilité de la culture lesbienne et le fait de la problématique éventuelle d'être en autarcie, de ne pas toucher un plus vaste public. Et tu avais dit d'ailleurs que tu reviendrais sur le sujet plus tard, ça ferait l'objet d'un débat. Parce qu'en fait, moi, je me posais plusieurs questions. D'une part, comment définir la culture lesbienne ? Ça, personne n'arrive à le faire réellement. Et d'autre part, comment effectivement peut-être dépasser l'entre-soi et atteindre un public plus large, ce qu'ont su faire visiblement les gays, parce qu'il y a une culture gay qui est reconnue, et pourquoi il n'y a pas de culture lesbienne reconnue à ce moment-là. Et comment définir ce qu'elle recouvre exactement, ça, personne n'est capable de le dire, ou même par exemple dans des librairies comme Violette et compagnie à Paris, qui est une librairie féministe et lesbienne. J'en ai souvent discuté avec Catherine et Christine, c'est une vraie problématique pour elles aussi. Comment aménager les rayons, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on prend comme livre, qu'est-ce qu'on ne prend pas, etc. etc., etc.
L'histoire du grand public, c'est simplement c'est une histoire de réverbération. C'est-à-dire que comme personne ne va le faire à notre place, si nous, on ne prend pas le haut-parleur et on ne montre pas... qu'on est là, et qu'on est là depuis des... C'est pas une histoire de 20 ans ou de 4 décennies, c'est une histoire de 2000 ans. C'est une histoire qu'il y a des femmes et des lesbiennes dans la vie humaine depuis toujours. Et que ça passe à l'as dans l'organisation mentale de la société. Donc, le truc, c'est d'équilibrer la connaissance que nous avons, parce qu'on y travaille depuis des années, d'équilibrer la connaissance que l'on a en la diffusant, bien sûr, entre nous, dans des événements comme celui-là, et comme Cinéfable, des événements où on se donne de la force entre nous, mais c'est aussi... là, par exemple, on dit oui à une télé qui va venir nous filmer pour simplement exister dans le monde, mais c'est localement en tout cas. Mais c'est qu'on veut se convaincre et convaincre les autres lesbiennes qu'on est une partie de la culture du monde. On n'est pas à la marge. Comme disait très, très justement Anna, on n'est pas marginal. On est à la marge, on est émarginé, c'est sûr. Ça, c'est un italianisme. On est mise de côté, mais on est des deux côtés. On sait et on veut et on peut absolument exister. Parce qu'on sait que si on existe dans la place publique, dans la cité, dans l'URBS, eh ben, les lesbiennes, elles vont entendre, elles vont dire, des lesbiennes qui passent par là, qui ne savaient pas, vous savez, à Toulouse, on existe depuis 25 ans, mais il y a encore des lesbiennes de Toulouse qui ne le savent pas qu'on existe ou que d'autres associations toulousaines existent. Donc c'est insensé, il faut bien avoir un culot pour imposer nos printemps lesbiennes de Toulouse dans la ville, comme si c'était un événement culturel, ben, parmi d'autres, de la culture majoritaire mainstream. Alors, qu'est-ce que c'est la culture lesbienne ? Ben, c'est tout simplement la pensée, tout ce qui est issu, qui a contrarié la pensée dominante. Je crois que, vraiment, il n'y a pas d'autre moyen de définir la culture lesbienne. C'est tout ce qui, au niveau des artistes, des écrivains, des linguistes, des anthropologues, ont fourni une pensée qui contredit, mais fondamentalement, le discours dominant qui nous accable depuis, on sait bien, depuis... Bon, voilà, moi, je ne sais pas. C'est la culture lesbienne, c'est le partage de tout ce qu'on sait et donc être à chacune des autres lesbiennes les propres enseignantes.
Très brièvement, je voulais dire que pour moi, c'est un plus les événements non mixtes lesbiens. Simplement, il faut aussi savoir, et ça peut vous intéresser, que par exemple, il y a eu le film Lesbiana au festival, le film de Femmes de Créteil, où il y a eu un film également remarquable sur le Gulabi Gang, qui est un mouvement en Inde qui lutte pour les femmes avec Sampat Pal Devi, que je vous recommande de découvrir. C'est assez facile sur Internet. Vous avez les musicales de mots. Alors, vous avez quand même des choses un peu féministe qui existe dans la société, même si ça n'arrive pas à la cheville, si vous voulez, des mouvements féministes, mais il y a quand même des choses qui existent.
Donc on peut conclure en disant qu'effectivement le gros problème de la culture lesbienne, c'est la visibilité, et la visibilité, on travaille toutes pour ça, et aussi à Bagdam Espace Lesbien. Alors juste une petite anecdote, le maire de Toulouse, le jour de la Gay et Lesbian Pride, a célébré le premier mariage lesbien. Donc il y avait l'estrade, le maire, les mariés, les officiels, etc. Et les copines malines ont hissé la banderole fierté lesbienne. Et bien déjà, c'est la visibilité. Et donc le début de la possibilité que notre culture, elle ait de l'importance. Voilà. Et maintenant, on passe aux ateliers.